L'instant M, ça passe vite et ça en dit long. Il est 9h40 sur France Inter.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Quand j'ai proposé à Bruno Patino d'être mon invité, il m'a fait remarquer qu'on était un 12 octobre, date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Je lui ai répondu qu'il avait l'ego bien démesuré de s'y comparer. « Oh non » s'est-il écrié, « c'est simplement le début des emmerdes ». Vous voyez, moi aussi je raconte des trucs. Ainsi va le directeur éditorial d'Arte France. Son livre s'intitule « Télévision avec un S ». Tiens, comme France Télévisions, avec un S dont il fut auparavant le numéro 2. Mais aussi comme le pluriel des programmes, des hommes et des écrans qui ont fait la télé d'hier et qui, dans un paysage numérique toujours plus complexe, cherchent celle de demain. C'est ça, la télé, un mélange de pixels et d'humains. C'est ça, son bouquin, un mélange de prospective et d'animateur sur le divan, une façon de regarder en arrière et loin devant. Bonjour Bruno Patino.
Bonjour.
Votre patronyme dit vos origines sud-américaines, confère donc la date anniversaire d'aujourd'hui, et votre livre sort chez Grasset.
Les médias sur France Inter, c'est l'instant M par Sonia De Villers.
Alors pour commencer, ni Arte ni France Télé, mais iTélé, la chaîne info du groupe Canal, attend l'arrivée en quotidienne de Jean-Marc Morandini, journaliste mis en examen pour corruption de mineurs. La rédaction a voté hier à 92% une motion de défiance à l'égard de sa direction, taux de participation 80%. À lire dans les Échos ce matin également, la chaîne numéro 23, dont souvenez-vous le CSA, a failli couper l'émission, fait l'objet de deux enquêtes en cours. L'une, parlementaire, connue, porte sur les conditions de création de la chaîne et sur sa revente rapide. L'autre, très discrète en revanche, est conduite par le parquet national financier, écrit les Échos. Elle porte sur la façon dont numéro 23 a obtenu sa fréquence de diffusion, et ce, à la suite d'une plainte pour trafic d'influence et corruption des posé par un concurrent déçu. Un jour de 1992 en Amérique, Bruce Springsteen a allumé sa télé. 57 chaînes et rien à regarder.
I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Man came by to hook up my cable TV, we settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on.
Voilà, ça c'était la télévision américaine des années 90, c'est la télévision française d'aujourd'hui, parfois il faut l'admettre, Bruno Patino. Mais comment en trois saisons d'Instant M cette chanson avait-elle pu m'échapper? En tout cas je vous dois beaucoup parce que je vais la réutiliser à toutes les sauces. Plus il y a de chaînes, moins le téléspectateur est satisfait, ça c'est vous qui l'écrivez. Plus il y a de chaînes, moins l'animateur est regardé, c'est quasiment mécanique. Plus il y a d'images, moins la télévision est dominante. Il n'empêche, avoir été vu à la télé, une bonne partie de sa vie, ça a toujours un impact très puissant sur celui qui s'y est exposé. Je vous propose d'écouter Karine Le Marchand. Elle est face à Nicolas Sarkozy.
Est-ce qu'on peut vivre en politique en côtoyant des gens avec des sentiments nobles?
Écoutez, si j'avais dû nommer comme ministre que des gens qui avaient dit du bien de moi, par Brice Hortefeux, je n'aurais nommé personne.
Hein, je trouve ça horrible, moi. Je vous assure, moi qui ne suis pas du sérail, je me dis...
Parce que le monde de la télévision...
J'ai pas d'amis, forcément, j'en ai un.
Pas moi non plus.
Voire deux.
Pas moi non plus.
Bruno Patino, à quoi reconnaît-on que Karine Le Marchand, qui n'est pas du sérail, donc, même si elle est animatrice sur M6 et même le principal visage d'M6, est atteinte par le syndrome du narcissisme dévastateur qui gagne tous les animateurs télé?
D'abord, on le reconnaît simplement parce que personne n'est véritablement épargné. Hein. La télé pendant très longtemps, ça l'est encore. C'est une très forte charge narcissique pour les gens qui la font. Mm. Qui finissent par... c'est pas comme les acteurs, parce que les acteurs, ils jouent un rôle, si vous voulez. Les animateurs, ils sont eux-mêmes. Hein. Donc, ils finissent par croire qu'ils sont aimés pour eux-mêmes. Que leur présence, ce qui est vrai, évidemment, que leur présence est nécessaire. Mais il y a une confusion entre leur image télévisuelle et leur propre vie. Mm-hmm. Et donc, ce qui frappe quand on aborde le monde de la télévision, c'est effectivement de voir l'impact réel de cette charge narcissique sur les personnalités que vous rencontrez.
C'est ça. Vous dites, ils se nourrissent de ce regard qui se transforme quand ils entrent dans un restaurant, quand ils entrent dans un lieu public.
Oui, parce que moi j'ai dans le livre, j'ai voulu raconter raconter la télé aujourd'hui. Alors la télé aujourd'hui, c'est encore la télé faite par des animateurs et par des hommes. C'est aussi une télé conquise par des systèmes numériques. Et puis c'est une télé aussi de création. Mais en ce qui concerne les animateurs, oui, on voit qu'il y a quand même une angoisse sourde, toujours permanente, au fait de pouvoir ne pas être reconnu.
Mais vous avez cet avant-dernier chapitre sur ceux que vous nommez, et l'expression est cruelle, sur les fantômes de l'INA, sur ceux qui n'ont plus d'émission depuis des années, et vous pointez le regard perdu, les yeux qui se remplissent de larmes, les phrases qui ne se terminent pas, les messages qu'on vous laisse à 3h du matin,
oui,
l'animatrice qui vient vous voir et qui vous demande une émission à n'importe quelle heure, sur n'importe quel sujet, sur n'importe quelle chaîne.
Oui, alors, j'en parle, hein, j'appelle ça les narcisses brisées, parce que pour moi, ce sont des personnes qui m'ont touché. Alors, je ne donne pas leur nom, parce que ça ne vaut pas la peine de le faire. Mais en revanche, je raconte, effectivement, parce que in fine, c'est les ravages de l'addiction quand vous n'avez plus votre dose dans la réalité. Et c'est ça que vous voyez. Et c'est très surprenant de voir des visages qui, effectivement, vous disent quelque chose que vous avez connu à un moment donné, que vous voyez, que vous revoyez quelquefois dans des images d'archives, qui sont de moins en moins présents. Et ces gens qui s'accrochent à la représentation télévisuelle pour demander au bourreau 5 minutes de plus.
Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est de se demander si la génération qui vient derrière, c'est-à-dire les youtubeurs qui sont vus par des millions de gens, si eux, avec leur indifférence totalement affichée face à la télé, si eux sont exempts de cette addiction à la notoriété. Écoutez l'un d'entre eux.
J'ai croisé un paquet de monde ces derniers temps, dans la rue, au bar, à la buvette, en train de boire un coup. Enfin bon, bref, j'ai croisé un paquet de monde et ils m'ont tous dit la même chose.
Alors tu fais plus de vidéos maintenant ?
Bah si, je suis justement en train de te filmer, maman.
Ah bon, parce que je reçois plus rien, c'est bizarre.
Ah, je vous assure, il n'y a pas que ma mère qui me l'a dit, hein. Il y a un paquet de monde.
Bah ouais, YouTube a changé son algorithme. Les youtubeurs sont pas du tout hiérarchisés de la même manière. Ils hurlent Bruno Patino, ils sont totalement accros eux aussi.
Oui, et le problème de leur addiction, c'est qu'elle est beaucoup plus éphémère. Parce que c'est intéressant, si vous voulez, le monde de la télé tel qu'il existe encore, c'est des carrières d'animateurs qui sont sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le monde des youtubeurs, qui est une notoriété extrêmement rapide, on peut aussi imaginer qu'elle est extrêmement éphémère. Et que donc, là, c'est l'effet d'un autre type de drogue extraordinairement violent et dont le sevrage se fait de façon très violente. Mais je ne doute pas que... Je pense pas que les générations soient exemples de narcissisme. C'est une autre façon de le vivre.
Alors, revenons à la télévision face à ces nouvelles, justement, concurrences. Hein, vous l'expliquez très bien. La télé, elle a perdu son statut de point de vue narratif unique. Avec Internet, chacun poste, chacun se filme. Et donc, on est face à un flux infini et composite d'images et de récits, donc de fragments. Et pourtant, vous pointez deux paradoxes. Le premier, c'est que rien ne parvient encore vraiment à banaliser le côté vu à la télé. Et puis le second, c'est que la télé d'aujourd'hui, elle souffre, d'accord, mais elle est faite par ceux qui ont vécu son apogée, c'est par celles qui ont vécu son âge d'or. Et du coup, tout le système de la télévision est basé sur le critère de l'âge d'or, à savoir l'audience. On va se plonger dans la bataille de l'audience tous les jours en Access Prime Time.
Nous on est là, on est en direct du lundi au vendredi, voilà, et on est là, bam, 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 bam.
Alors on a vu tout à l'heure donc la bande-annonce de l'Odyssée, on peut dire qu'on est loin de la géographie.
De la géographie ?
Oui,
de la géographie. Ah, pardon, excusez-moi.
Non, c'est...
C'est bon.
Je peux le résumer ?
Ah bah oui, je vous dirai
si c'est pas
pour résumer ou pas.
Les mots qui en ressortent, c'est rancœur, rancune, mensonge, trahison, fric, coup bas, complot, haine, vengeance.
Dans un instant, on fait le bilan de la semaine politique avec les éditorialistes. Et puis gros live ce soir, comme tous les vendredis, avec le crew Archive sur la scène du Grand Journal.
Voilà, 4 talk-shows de 19h dont on compare chaque lendemain matin les scores. D'ailleurs, Bruno Patino, vous le racontez comme une petite souris, pas comme quelqu'un qui aurait eu le pouvoir, mais comme quelqu'un qui se serait glissé dans les habits de son prédécesseur, en tout cas de rituels qui ont toujours cours. Tous les matins à 9h, il y a le sketch du SMS qu'il faut envoyer à l'animateur.
Oui, parce que tous les matins à 9h, quelle que soit votre chaîne, alors il y a des chaînes sur lesquelles c'est moins important que d'autres, celle où je travaille en ce moment, Arte, c'est moins important que d'autres, mais malgré parce que l'audience, c'est à la fois une marque de succès, puis c'est le fait de savoir si vous êtes regardé ou pas, ce qui est quand même important. Et évidemment, c'est Moi, ce qui m'a plu de raconter, c'est toute la entre guillemets petite comédie qui suit ces audiences, parce que vous avez vos résultats à 9h, et effectivement, dès 9h01, dès 9h02, commence le long rituel des gens qu'il faut féliciter.
Dès 9h10 pour les animateurs les plus susceptibles et les plus courus par la concurrence, parce que TF1 et M6 vont le faire à votre place, sinon.
Moi, je raconte ça à un moment donné, quand je venais d'arriver, je me souviens d'avoir attendu 9h07 ou 9h08 pour féliciter un animateur qui avait fait une audience record, mais j'ai pas pu attendre parce qu'à 9h05, j'ai reçu un SMS me disant « Tu as perdu ton portable, Bruno ?» Et donc là, vous comprenez que vous n'avez pas 5 minutes, qu'effectivement, il faut être extraordinairement rapide, bien sûr.
Ouais. Alors en quoi, Bruno Patino, l'audience est-elle un critère, selon vous, caduque, un critère moribond?
C'est pas caduque, mais vous l'avez
écrit.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, l'image est partout. Il y a plein d'images partout, et paradoxalement, cette image qui devrait... qui annonce d'une certaine façon le triomphe de ce qu'a été la télévision, c'est en même temps aussi sa fragilité, parce que comme l'image est partout, finalement tout le monde peut avoir de l'audience, alors pas au même moment. Évidemment, c'est-à-dire l'audience au même moment, c'est toujours un vase communicant. Mais c'est pas parce que vous faites pas d'audience à un moment donné que vous ne serez pas vu finalement.
C'est ça, vous
que
vous
ce soit
dites,
en replay, dans les réseaux sociaux ou ailleurs.
Être vu ne signifie plus rien. 900 minutes d'images disponibles pour une seule minute d'attention. Finalement, c'est plus l'audience qui compte, c'est l'impact.
Oui, ça c'est absolument ma conviction, et c'est une conviction qui va au-delà du livre qu'on peut écrire, mais qui est une conviction sur ce que j'essaye de faire. C'est que je crois que quand l'image est absolument partout, ce qui compte, c'est l'effet qu'elle fait sur le téléspectateur, l'impact qu'elle a. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'images aujourd'hui. Il y a les images qui vous passent devant les yeux, qui vous accompagnent et vous oubliez aussi vite. Et puis, il y a ce qui peut, à un moment donné, vous faire changer d'humeur, vous faire changer d'avis, vous faire changer d'idée, vous faire changer de priorité, voire même vous faire changer de vie.
Est-ce que c'est pas un peu ce que font les journalistes médias? C'est-à-dire, quand on dit « qui est le roi de l'accès ?», ils répondent tous à l'unisson, c'est Cyril Hanouna. Mais non, le roi de l'accès, c'est Laurence Boccolini et c'est le 19-20 de France 3, en réalité.
Oui, mais ça parce que vous êtes dans une compétition, parce que l'audience, ça existe au démarrage et ça existe toujours pour des problématiques économiques, vous le savez bien. C'est qu'à un moment donné, bon, cette publicité-là, mais ces modèles économiques, il va être fragilisé à un moment ou à un autre. C'est ça aussi. C'est un moment vraiment très, très... C'est pour ça que, si vous voulez, qu'il ne faut pas le théoriser, il faut juste se contenter de le raconter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs strates. Il y a toujours la télé telle qu'on l'a connue, les animateurs, la course à l'audience. Et puis, il y a les gros systèmes numériques qui arrivent, qui commencent à faire de la programmation, du programmatique, du non-linéaire, etc. Et puis, il y a ces créateurs qui font des séries. Il n'y a jamais eu autant de séries de qualité en ce moment dans le monde entier. Le nombre de pilotes lancés, le nombre de séries, etc. Et puis, il y a en même temps tous ces gamins qui regardent, et puis nous-mêmes d'ailleurs, qui regardent des images sur smartphone sans se demander si ça vient de la télé ou pas. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Et puis, il y a la conversation sociale. Et puis, il y a tout ça qui fait un monde tellement contradictoire, d'une certaine façon, tellement bouillonnant, qu'on peut ni annoncer son déclin, ni son âge d'or, seulement sa mutation, sans savoir vraiment vers où il va, et se contenter justement de voir toutes ces histoires qui commencent à prendre forme petit à petit.
Alors, il y a des histoires qui commencent à prendre forme, il y a des histoires qui ont pris forme, il y a longtemps et qui sont toujours à l'écran, et vous pointez à travers des portraits d'animateurs quelque chose d'assez finalement précieux et de plus en plus rare, à savoir le lien avec le public. Drucker, Sébastien.
C'est très original ce qu'a fait la jeune fille, et c'est surtout très très physique. Elle s'appelle Tatiana Konobols.
Voici Claude Brasseur, Nicole Calfon et Daniel Ruffet. Nicole, Claude et Daniel. Bonjour ma petite Nicole.
Salut.
Alors ils sont là en voisin. La Madeleine, c'est à deux pas.
Bonjour.
Et il joue une pièce de Laurent Neuf.
D'aucuns les disent cramés, ringards, vieillissants, que la télé n'arrive plus à s'en débarrasser, etc. Vous dites, Sébastien, c'est finalement une télé, une forme d'instrument de consolation pour les gens. Et Michel Drucker, c'est une forme de télé nounou, une forme de télé d'accompagnement. Et voilà deux télévisions beaucoup plus difficiles à faire qu'il n'y paraît.
Oui, ça paraît simple comme ça, mais d'abord, c'est... effectivement, je fais le portrait des deux, mais pour essayer de comprendre, en fait, parce que maintenant que je peux un peu prendre de distance par rapport à ce que je faisais, j'essaie de comprendre leur importance. Et leur importance, elle existe auprès du public. Sébastien, il a repris tous les codes du cirque. Donc on retrouve la piste aux étoiles. Et il a un vrai rapport quand vous allez sur un tournage, je raconte un tournage, effectivement c'est interminable, ça dure très longtemps, mais on ne triche pas pendant un tournage. Et vous voyez qu'il a un véritable rapport à la fois à son public et aux artistes qui sont,
alors, vous
comme l'aurait un patron de cirque.
Justement, Sébastien, c'est le cirque, mais ce n'est pas les jeux du cirque. Et les jeux du cirque, c'est devenu la norme télévisuelle. Les jeux du cirque, c'est Ruquier et Barma dont on n'est pas couché, par exemple.
Moi, c'est ce que vous racontez. Plus les jeux du cirque ou le procès, comme on veut. C'est un mode de télévisuel qui reprend les codes du procès, la mise en accusation, la défense, etc. Voilà, ou les jeux du cirque, si vous voulez. Mais effectivement, Patrick Sébastien, c'est le cirque, la piste aux étoiles, le chapiteau.
Et Drucker.
Avec des morceaux. Et Drucker, effectivement, je pense que... Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Je pense que c'est quelqu'un qui accompagne les gens pour rendre moins difficile le temps qui passe. Et donc, dans cette volonté qu'il a de durer, presque d'être immuable dans la télé qu'il fait, je pense qu'il apporte une certaine permanence qui rassure les gens l'après-midi. Oui, ça, je le crois. Et quand on voit le rapport qu'il a à son public, on voit qu'il y a ce rapport-là. Ouais.
On trouvera dans ce livre nul secret, la télévision n'en a pas. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Il y a Ruquier, il y a Barma, il y a ce dont on vient de parler, il y a Ardisson, il y a Tadei, il y a Sophie Aram. Pourquoi il n'y a pas Nagui ?
Bon, d'abord, il n'y a pas tout le monde.
Non, il n'y a pas tout le monde. Mais,
Nagui,
ça a été le grand déçu du début de votre règne. Ça a été le grand gagnant de la fin. C'est quand même très difficile de passer à côté de Nagui quand on a été le numéro 2 de France Télévisions.
Ah, je ne suis pas passé à côté de Nagui. Je n'ai juste pas fait le portrait parce que j'essayais de dresser le portrait de gens qui m'avaient, dont je trouvais que ce qu'il faisait avait une signification particulière pour la télévision. J'aurais pu parler de Nagui, des jeux qu'il fait, etc. Mais ça s'est pas trouvé. Voilà, je vais pas parler de tout le monde.
Ça s'est pas trouvé. Je vous fais écouter un match de football américain diffusé en live sur Twitter. 33, he's got the ball, draw play, Deshaun Foster running left, at the 30, breaks a tackle, breaks another one, at the 20, sideline 10, 5, Foster dives in the end zone, touchdown Panthers! Streaming live on Twitter, this is happening. Ce n'est pas du piratage, Bruno Patino. C'est un accord entre la Ligue nationale de football américain et Twitter qui diffuse un live magnifiquement produit comme à la télévision sur un réseau social. C'est toutes les équipes de Donald Trump qui ont filmé les conventions américaines qui les ont diffusées en live sur Facebook. Et c'est encore mieux à regarder sur Facebook qu'à la télévision. Vous avez parlé de n'importe quel clampin qui peut se filmer, etc. Or, vous dites, le principe fondateur de la télé, c'était la rareté.
Mais oui, c'est justement tout ce livre-là raconte, c'est que comment maintenir cette spécificité télévisuelle dans un monde où l'image est omniprésente, y compris l'image en direct. Parce que pour avoir ces 5-6 dernières années, on se disait de plus en plus, il reste des forteresses que le numérique ne prendra jamais dans la télé. Il reste les grands événements, le grand direct, tout ça, et bien tout ça tombe petit à petit. Alors ça veut, encore une fois, ça tombe. Et en même temps, la télé continue, c'est-à-dire c'est ça qui est très très curieux. Donc elle perd tous ses monopoles, elle perd d'une certaine façon... Moi ce que je crois, si vous voulez, c'est que pour se réinventer, il faut qu'elle se réinvente sur un principe de rareté. Enfin c'est ma conviction, c'est-à-dire des récits rares, des récits longs, et que très très bizarrement, moi je viens d'une génération où ma vie n'est pas très intéressante, mais je raconte juste ma génération. Ma génération, c'est à la fois les enfants de la télé, effectivement, et puis des gens dont... pour lesquels les parents souvent disaient « la télé, c'est un système, c'est un outil d'aliénation épouvantable, ne sois pas devant la télé, évite d'être devant la télé ». Et évidemment, la télé était perçue comme quelque chose, comme un instrument d'aliénation, encore une fois. Aujourd'hui, l'image étant partout, elle perd, elle ne peut plus être le grand méchant. Alors, soit elle se banalise totalement, ce qui est le cas souvent, soit elle essaye de récupérer, si vous voulez, un peu sa spécificité. Sa spécificité, c'est quand même de pouvoir rassembler de temps en temps plusieurs personnes autour de récits et d'images qui prennent un peu leur temps. Mais si vous voulez, c'est un combat, moi j'essaye de le mener à Arte avec Véronique Kella et autres, mais au-delà de ça, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement la télévision est devenue plurielle, elle est devenue omniprésente et en même temps, elle n'est plus omnipotente.
Elle n'est plus omnipotente. Et puis moi, je vous conseille le chapitre où vous êtes comme à peu près tout ce qui compte dans le PAF, présent à l'église le jour de l'enterrement de Jacques Chancel. Et vous écrivez 2-3 lignes très bien senties où vous dites « Ce jour-là, on enterrait Jacques Chancel et on enterrait l'ORTF ». Merci beaucoup, Bruno Patino. Ça sort chez Grasset Télévision avec un S. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia de Villers.
Alors, grand bien vous fasse.
Est-il encore possible de réussir à l'école sans argent? Témoignez au 01 45 24 7000.
Et c'est juste après les infos.